Alors, il y a des symptômes. Alors, il y a quelquefois des maladies cutanées. Il y a parfois quelques symptômes, mais c'est assez rare. Et le problème de la fatigue, c'est que c'est un symptôme qui n'est pas quantifiable. Et on n'a pas de test. Et si on pose la question à des gens, il y a beaucoup de gens qui se plaignent de fatigue. Donc, c'est pas très quantifiable. Quand on a une éruption de bouton, ça, c'est visible. Quand on a une cheville qui fait mal, c'est quantifiable. Là, la fatigue, ça donne sûrement de la fatigue, mais de façon très variable. Mais la plupart des gens qui ont une hépatite C n'ont pas d'asthénie, de fatigue. Et donc, c'est pour ça que c'est important le dépistage, parce que ça permet de trouver les gens. Et il y a plein de gens qui sont très surpris quand on leur annonce qu'ils ont une hépatite C. Donc, ce n'est pas parce qu'on se sent parfaitement en forme, qu'on n'est pas fatigué du tout, qu'on ne peut pas avoir une hépatite C.
En fait, c'est vrai que nous, on traite les malades, mais on ne reçoit pas le traitement. Donc, on ne sait pas vraiment ce qu'ils ressentent. Et donc là, il y a deux reportages sur les malades. C'est pas évident, hein, de trouver ce. Peut-être que si je fais ça, je pourrais peut-être aller directement. Celui-là, là. Le bleu en bas, lequel?
C'est dans le panneau.
C'est pas ça. Là? Ah voilà. Très bien. Alors voilà, donc on va voir en fait un témoignage d'un patient qui est traité pour une hépatite C.
Mon hépatite C, je l'ai trouvé complètement par hasard. J'étais comédien, j'ai joué dans une pièce. Et la billeuse me dit un soir, c'est deux ou trois fois qu'on jouait, elle me dit, c'est incroyable, tu as des hématomes partout, des bleus partout. Et donc, un des médecins, tous les soirs, il y a un médecin comme il est français, est venu le voir parce que je ne faisais rien. Il y a 30 ans, je n'avais pas eu de médecin. Et il m'a dit, faut aller voir un généraliste quand même, faire des prises de sang. On m'a fait ce qu'on appelle une numération formule sanguine et on a vu que j'avais très peu de plaquettes, j'avais 50 000 plaquettes. Donc ils m'ont envoyé chez un hématologue et le monsieur m'a examiné sous des coutures, m'a pris une vingtaine de tubes de sang et m'a dit il y a deux hypothèses. Je dis la bonne et la mauvaise, mais dis non, les deux sont mauvaises, mais je ne crois pas que ce soit une leucémie. Mais à mon avis, vous avez une maladie, une hépatite virale. On va voir ce que c'est. Et 15 jours après, voilà, vous avez l'hépatite C. Bah, sur le coup, j'ai dit, voilà, j'ai une hépatite. Alors il y a des gens qui ont dit, oh mon Dieu, c'est terrible. Puis il y en a qui m'ont dit, mes frères, je me souviens, je me suis fâché avec lui, il m'a dit, c'est pas grave, moi j'ai un copain qui en a une, ça se soigne même pas, et puis elle guérit toute seule. Et j'étais pas du tout malade, et j'étais au stade de la cirrhose. C'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Parce que c'est une maladie que j'avais sans doute depuis une vingtaine d'années, mais qui est à la fois discrète et silencieuse. Le traitement peut être difficile, et comment moi je l'ai supporté, je peux vous dire que quand on connaît d'autres malades, on a une panoplie de trucs, on appelle ça trucs et astuces, pour éviter les effets secondaires trop graves du traitement. J'ai fait 6 traitements, dont le dernier a duré en continu pendant plus de 3 ans, j'ai eu de l'interféron, au début même une espèce de trithérapie, puis en bithérapie, et puis de l'interféron seul pendant 2 années. Je suis négatif depuis le mois de janvier, j'ai fait ces examens de recherche du virus, qu'on appelle des PCR, j'en ai fait 3 depuis janvier, après des traitements très longs, et je n'ai plus le virus. Alors que si je vous dis qu'il y a 7 ans, le médecin qui me suivait voulait me greffer, il voulait me mettre sur la liste des demandeurs de foie. Et j'ai amélioré mon foie, j'ai amélioré mon corps, je ne suis plus malade. Alors, mon hépatite C, je l'ai trouvé complètement par hasard. J'étais comédien, j'ai joué dans une pièce.
Ah non, c'est toujours la même.
La bieuse,
on va arrêter. Donc Michel Bonjour, en fait, s'occupe d'une association qui s'appelle SOS Hépatite depuis très très longtemps. C'est vraiment quelqu'un de très très actif. Et vous voyez, quand il raconte très très bien, c'est un conteur en plus. C'est vrai que c'est un comédien, donc il sait bien raconter les histoires. Il aime bien raconter les histoires. Il raconte très très bien sa maladie. Et donc il dit quand même qu'on le voyait de temps en temps, enfin, il était très fatigué. Hein, enfin, donc, il a eu un traitement un petit peu atypique quand même, hein, parce que vous avez été traité pendant 3 ans, c'est pas du tout l'habitude. Hein. C'est vrai qu'on va traiter certains malades pour une hépatite C qui ne répondent pas trop trop bien au traitement pendant 1 an et demi, mais jamais aussi longtemps. Mais bon, il y a des gens qui... Il y a toujours des atypies en médecine. Donc il raconte bien que c'est un traitement fatigant, mais il faut se traiter, quoi, c'est important. Et vous voyez, quand il dit, effectivement, c'est une maladie silencieuse, lui, il avait une cirrhose du foie, il avait 50 000 plaquettes, hein, la normale des plaquettes, c'est 150 000, hein, donc il n'avait plus de plaquettes, et c'est vrai qu'il avait une maladie grave, et qu'on avait pratiquement transplanté. Vous, monsieur Vacheteau, là, quand on vous a transplanté, vous aviez combien de plaquettes? Voilà. Voilà. Donc, vous voyez, en fait, grâce au traitement, on peut ne pas aller vers... la transplantation, et puis dans certains cas, M. Vacheteau n'avait pas une hépatite C, peu importe sa maladie, mais il avait une maladie tellement grave qu'on arrive à la transplantation. Mais vous voyez que quand on est transplanté, vous avez été transplanté quand, M. Vacheteau? Racontez un petit peu.
Ils ont la transplantation en 2003, en 2003, donc ça va faire 5 ans, 10 mars. Oui. Là, donc, ça faisait plusieurs années que je suis vraiment des problèmes d'hépatite.
C'est court, hein, quand même.
C'était court.
Ouais.
Et aussitôt, c'est vrai, j'ai vraiment retrouvé une vie tout à fait normale. Je sentais prendre des corps, donc éclater.
Parce que bon, l'hépatite C, c'est la première cause de transplantation en France. Je veux dire qu'à l'heure actuelle, enfin, l'hépatite C, puisque là on parle des hépatites, c'est la première cause de transplantation. Justement, alors comment vous vivez ça, M. Macheteau, par rapport au greffon? Comment vous qu'est-ce que vous ressentez? Parce qu'on en parlait ce soir avec Karine, justement.
Bah, disons, le greffon, bon, on nous transprend constamment. Il y a des moments où c'est assez fort. Et disons, quand j'y pense, c'est, par exemple, je pars en vacances, un exemple. Je vais à la montagne, je ne sais pas si mon greffon connaissait très bien.
Quand même, il y a ça, parce que justement, je pense que parfois, il y a des gens qui ont du mal à vivre ça. Il
oui,
y a des moments qui sont difficiles, certainement.
Mais les débuts, ça fait assez. Je ne sais pas trop bien, enfin, je crois que je ne supporte pas, mais je me sentais avec quelque chose en trop sur moi. J'avais cette impression d'avoir quelque chose en plus sur moi qui me rendait la vie.
Est-ce que ça, vous n'en parlez jamais en consultation?
Non, je ne parle pas
jamais.
Et même à un matin, souvent, c'est vrai que je ne pense pas à ça, je pense à ma mère. C'est un souhait qu'on a.
Vous avez des questions, monsieur Macheteau? Enfin, vous êtes à distance, là, monsieur Macheteau. Vous pouvez maintenant, monsieur Macheteau.
Oui.
Ouais.
Mais
à distance, quoi. C'est vrai qu'autour de la greffe,
lorsque vous avez une
c'est à Rennes, ils ne sont pas trop...
Lorsque vous avez une maladie comme celle-ci, vous ne prenez plus de risques. C'est certain. Malgré qu'on vous donne l'autorisation, je pense que non. Parce que ça, maintenant, c'est une règle.
Je crois qu'aussi, enfin, ce qui est assez impressionnant justement dans la greffe, c'est quand on se rappelle de vous avant. Parce qu'avant vous étiez. Voilà, c'est. Et puis nous aussi, en tant que médecin, on vous voit malade, mais malade. Enfin, vraiment, bon, la cirrhose sévère, très très fatiguée. Alors bon, certains malades ont de l'eau dans le vent, des œdèmes. Et puis nous, on vous connaît comme ça. Et on ne vous connaît pas autrement. Voilà. Et après, quand on vous voit tel que vous êtes là, c'est vraiment quelqu'un de complètement différent. Et ça, c'est aussi quelque chose d'assez merveilleux.
C'est assez long, ça, parce que j'ai connu ça pour un seigneur une dizaine d'années. Au départ, j'étais suivi dans 40 minutes, mais voilà. Et plus ça allait, plus ça avançait quand j'avais la pression. Si là, vous êtes intervenu en disant qu'il n'y a plus aucun traitement, c'est la grâce. Et là, ça s'est passé comme un morceau. J'ai quand même passé 2 mois de réflexion avant de prendre mon rendez-vous s'il n'y a pas eu. Aujourd'hui, c'est sûr que les personnes qui sont maintenant en dehors, moralement, on peut maintenir la saison là, parce que franchement, c'est mal.
Oui, c'est ça. Bon, je pense que c'est important, c'est de dire que effectivement, ces maladies chroniques virales, bon, bah, il y a des traitements, mais comme vous avez vu, bon, ils ne sont pas toujours efficaces, hein, à peu près dans la moitié des cas, et que lorsque la maladie continue à évoluer, heureusement, donc, on a la transplantation, donc ça permet effectivement de revivre en fait. Hein. Donc la transplantation donc, dans la cirrhose, et puis aussi on va faire des transplantations chez les malades qui ont des tout petits cancers du foie. Donc les tout petits cancers du foie, c'est aussi une indication de la transplantation, et on peut revivre aussi. Mais comme le dit bien M. Macheteau, le problème de la transplantation à l'heure actuelle, c'est les greffons. Et donc il faut pouvoir avoir des greffons pour redonner une vie à des malades qui ont un foie qui ne fonctionne plus du tout. Il n'y a pas, à l'heure actuelle, il n'y a pas de foie artificiel. Ça ne marche pas bien, le foie artificiel. Il y a des tentatives, il y a eu des tentatives, et puis finalement, qui ont été abandonnées, parce qu'on était obligé d'utiliser des cellules du foie cancéreuses. Donc, on ne peut plus les utiliser. On a utilisé aussi des cellules du foie de porc, et donc, bon, ça ne fonctionnait pas. Donc, pour l'instant, on n'a pas de foie artificiel. Donc, les malades vont rester sur la liste de transplantation assez longtemps. Bon, heureusement, maintenant, on a une nouvelle façon les gens sur la liste d'attente vont être pris un petit peu plus rapidement qu'auparavant. Donc, ça, c'est bien. Mais bon, il y a toujours cette attente et ce risque, malheureusement, de mourir alors qu'on est en attente d'une greffe.
C'est surtout l'attente qui est paradoxale. Au départ, on ne veut pas aller sur la greffe, mais on ne veut pas qu'on s'entende. Disons, au départ, on a fait 2 mois de réflexion, c'est ça, c'est une peur. Hein. C'est une peur. Mais ça a été, j'avais eu le moral remonter, c'est parce que je suis parti sur le règne, le fait que j'avais des greffeurs devant moi qui m'expliquaient leur peur avant. Quand je dévoyais comme ça en 2020, je lui ai dit ça va être formidable. C'est là.
Ouais, je pense que c'est important. Alors, dans certains cas, oui. Dans certains cas, on peut partager le foie, effectivement. Ce qui peut se faire aussi, on peut greffer par exemple un enfant avec une partie de foie et puis un petit adulte. Mais bon, en fait, on va toujours calculer en fonction de la taille du malade. Donc, quand on partage les foies, souvent des personnes qui sont petites quand même, de petits gabarits. Voilà. Et puis, alors parfois, on a ce qu'on appelle des foies auxiliaires aussi. On peut aider un foie qui est défaillant. Mais effectivement, on peut partager les foies.
Une fois sur elle, j'avais demandé une personne qui avait des meufs à la chambre. Et donc, il avait mis un œuf dans le foie, une dame à côté a mis le foie. Donc, il y avait des fois, j'avais des personnes.
Ouais.
Et quand on greffe près de l'œuf, ça risque un peu de l'œuvre initiale de la surface.
Ah non, on l'enlève. Enfin, sauf dans certains cas, dans les hépatites fulminantes, enfin les hépatites toxiques, on va parfois laisser le foie en place et mettre un greffon. Mais souvent, on enlève plutôt. En transplantation hépatique, on a tendance à...
J'ai peur de dire, c'est M. Bourgeois.
Oui.
C'est une hépatite C.
Oui, tout à fait.
Il a dit qu'à un moment, il était très près de la cirrhose.
Non, il était cirrhotique. Il avait une cirrhose. Bon, dès le départ, il avait une cirrhose.
Ça allait mieux. Alors, pourquoi est-ce que la cirrhose?
Parce que oui. Alors, voilà. Donc, ce qui est merveilleux, c'est que la fibrose régresse et donc la cirrhose peut effectivement disparaître. Lorsqu'on traite très tôt... juste au début de la cirrhose, eh bien on peut régresser et arriver aussi. La cirrhose, c'est F4 en fibrose, et eh bien on peut revenir à F3 et puis on peut descendre comme ça. Avant, on pensait qu'une fois qu'on avait la cirrhose, c'était fini. Bon. Mais non, en fait, on peut régresser. Et donc, grâce au traitement, on peut guérir de sa cirrhose et revenir à une fibrose moins importante.
C'est plus finalement rouge qu'on voit, c'est la fibrose, c'est ça.
Oui, la coloration qu'on voyait, oui. Oui, c'est comme une cicatrice. C'est comme une cicatrice. Tout à fait. Mais en fait, la fibrose, c'est quelque chose de très dynamique. Ça, il y a les processus fibrosants, antifibrosants, enfin, il y a toujours, c'est une dynamique. Alors, quand on arrive et qu'on est toujours dans la dynamique, ben, c'est vrai qu'on peut aller faire régresser la fibrose. C'est vrai qu'à un moment donné, la dynamique, elle est un peu essoufflée. Hein, et donc, quand on est à une cirrhose qui a évolué depuis 10-15 ans, on ne va pas retourner à une fibrose F3. Mais lorsque la fibrose évolue depuis 2, 3 ans, 4 ans, eh ben, il y a toujours ce processus dynamique et on peut revenir en arrière. Mais avant, on pensait que non. Et puis là, c'est des travaux de nos collègues français, de Stanislas Paul à Necker. Il a bien montré, donc, en particulier donc, chez des malades des insuffisances rénaux, mais aussi chez des malades qui avaient une hépatite C sans insuffisance rénale, qui avaient une régression de la fibrose.
Entre la cirrhose et le
Alors, ça peut être plus ou moins rapide. Comme vous avez vu, hein, ça peut être de 15 ans à 30 ans, 40 ans. Parfois, c'est plus rapide, par exemple, chez les malades qui sont co-infectés par le virus VIH et le virus VHC. Il y a une évolution plus rapide vers le cancer du foie. Parce que l'immunosuppression fait en fait qu'on a... les défenses sont diminuées et donc le cancer va apparaître plus rapidement. Donc effectivement, dans ces cas-là, le cancer apparaît plus tôt. Après, il y a d'autres facteurs qu'on ne connaît pas, qui sont liés à l'hôte, pas tellement au virus en fait. Quel que soit le virus qui nous infecte, le virus hépatite C qui nous infecte, on fera un cancer, c'est pas parce qu'on a... C'est pas le génotype 1 fera plus de cancer que le génotype 4, non. C'est pas le virus, c'est vraiment l'hôte et nos défenses. On peut faire... Oui, vas-y. Oui, bien sûr. Non. En fait, il n'a pas un système immunitaire. On a chacun notre système immunitaire. Alors, parfois, en fait, on a des systèmes immunitaires qui n'ont pas du tout envie de tolérer le virus. Et donc, en fait, quand ils n'ont pas du tout envie de tolérer le virus, ils vont le rejeter très, très vite. Et donc, en fait, quand on a, on va dire, un bon système immunitaire, on va se débarrasser vite du virus et donc on va guérir, quoi. Et puis, dans d'autres cas, on a un système immunitaire qui va complètement tolérer le virus. Donc, en fait, on a des grandes quantités de virus. Il ne se passe pas grand-chose au niveau du foie. Les transaminases, elles restent très, très peu élevées. Il y a peu d'activité. Mais cette tolérance, quand même, fait que on va pouvoir développer quand même une cirrhose. Et puis, après, il y a entre les deux, où on a des systèmes immunitaires qui font que les cellules du foie vont être attaquées par certains lymphocytes, vont être détruites, et donc on a une cytolyse importante et assez cyclique comme ça dans l'hépatite C. Donc en fait, on a tous des systèmes immunitaires différents.
À 55% pour la période 2001-2005.
Oui.
Ça fait une longue période sans amélioration.
Oui.
Mais depuis, il faut attendre un certain temps pour avoir arrêté les médicaments.
Oui.
Mais est-ce que ça progresse?
Alors, on va le voir. Ah ben, excellente transition. Alors, je vais vous parler des nouveaux traitements. Alors, ce qu'on appelle les traitements de deux mains. Donc ça, c'est l'hépatite C. Donc en fait, en ce qui concerne les nouveaux traitements, donc il va y avoir des nouveaux interférons, on va avoir des nouvelles ribavirines aussi, ce qu'on appelle des immunothérapies, et puis des inhibiteurs spécifiques du virus. Donc là, on est en 2007. 2008 même, maintenant. Voilà, alors, on a essayé, en fait, d'améliorer l'interféron pour qu'il soit plus efficace. Et donc, vous voyez, donc, les chercheurs ont essayé de nouvelles formes, donc essayé de mettre dans des liposomes, hein, ça c'est des choses assez nouvelles, les associer à des polymères nanoparticules. Et puis en fait, le nouvel interféron qui va arriver, sur lequel on a plusieurs études, c'est un interféron qui est lié à l'albumine humaine, qui s'appelle l'albuféron, et peut-être que lui, il sera un peu plus efficace. Donc il est un peu plus efficace. Donc ça va être une nouveauté, donc 2009. On a aussi un interféron qui est un interféron alpha consensus, pour lequel il y a eu des études, l'interféron bêta, puis d'autres interférons oméga. En fait, vous voyez, 2009, donc le nouvel interféron qui arrive, c'est l'interféron lié à l'albumine. Donc ça, c'est une petite amélioration. Après, donc le médicament qu'on associe à l'interféron, c'est la ribavirine. Et donc, il y a une nouvelle ribavirine. Alors, on avait beaucoup d'espoir, mais bon, on a finalement des interrogations concernant cette nouvelle ribavirine. Peut-être qu'elle ne serait pas aussi efficace qu'on le pensait. Donc, pour l'instant, on ne va pas l'avoir tout de suite. Et en ce qui concerne ces inhibiteurs, là, c'est pareil, pour l'instant, on ne les utilise pas, on les utilise dans d'autres maladies. Alors, il y a des nouvelles voies. Alors, c'est des nouvelles voies, vous voyez, c'est un avenir plus lointain. Hein. Donc, pour l'instant, ces nouvelles voies, ça sera peut-être 2015. Donc, en fait, on va voir ce qu'on peut avoir peut-être en 2010. C'est ce qu'on appelle des inhibiteurs spécifiques du virus de l'hépatite C. Et donc, voilà. Donc, en fait, c'est ces médicaments-là qu'on espère avoir en 2010. Et le médicament qu'on espère avoir, c'est celui-là, qui s'appelle le Telaprévir. Donc, c'est vraiment un médicament qui est dirigé contre le virus de l'hépatite C et contre la machinerie qui fabrique le virus de l'hépatite C. Donc c'est un inhibiteur de protéase, donc qu'on appelle NS3, peu importe. Et donc voilà, donc ce médicament-là, 2010. Donc c'est ça le grand espoir. C'est un médicament qu'on associera à l'interféron et la ribavirine. Donc ça sera des trithérapies. La tolérance, malheureusement, ça sera la tolérance qu'on a à l'heure actuelle. Donc on a des traitements quand même difficiles. Vraisemblablement des traitements au moins de 6 mois. Grâce à ces traitements, en fait, à l'heure actuelle, donc les génotypes de virus qui sont moins sensibles au traitement, le génotype 1, le génotype 4, le génotype 5, le génotype 6, dans ces virus-là, donc on a à peu près 45% de réponse. Et grâce à l'association avec le Telaprévir, on a des réponses entre 75 et 80%. Donc ça, c'est vraiment quelque chose de très très fort. C'est une avancée très importante, mais il faudra attendre 2010. Donc pour l'hépatite C, c'est ça, c'est le Telaprévir en association avec l'interféron et la ribavirine. Alors c'est vrai que là, en ce moment, on est un petit peu mal parce qu'effectivement, les malades qui n'ont pas répondu au traitement, qui sont des génotypes 1, qui n'ont pas répondu au traitement et qui ont des fibroses sévères, on n'a pas de médicaments. Donc, ça, c'est vrai, c'est un problème. Donc, on peut, on va dire, inclure dans des protocoles. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on essaie des quantités de traitement beaucoup plus importantes. On multiplie les doses d'interférons par 2, voire par 4. Alors, la tolérance, finalement, n'est pas si mauvaise que ça. On associe aussi, pour la tolérance, tout à l'heure, on parlait de la tolérance des traitements. Donc, on avait ces traitements pour aider au confort de vie. Mais aussi, on peut aider d'une autre façon en donnant de l'érythropoïétine. Donc, de l'EPO, on va associer l'EPO à l'interféron, à la ribavirine. Et comme ça, on aura moins d'anémie. Et donc, quand on n'a pas d'anémie, on est moins fatigué quand même. Hein. Et donc ça, c'est un élément important. Ça veut dire que grâce à l'EPO, on peut donner des doses suffisantes d'interféron et surtout de ribavirine. Et la dose suffisante de ribavirine, c'est vraiment un élément certainement très très important pour tuer le virus. Et donc on peut garder des doses de ribavirine suffisantes.
Donc l'érythropoïétine, donc à l'heure actuelle, on a le droit de prescrire l'érythropoïétine en association avec l'interféron et la ribavirine lorsqu'on a une anémie inférieure à 10 grammes. Et donc on donne l'érythropoïétine et ça permet d'utiliser les bonnes doses de traitement pendant une bonne durée. Voilà, donc bon, c'est un petit espoir quand même, on a des espoirs. Tout à fait, oui. Ben non, parce que à l'heure actuelle, le telaprévir, là, on l'a utilisé justement chez les malades qui étaient vraiment très résistants au traitement. Chez les malades qui n'avaient pas répondu, chez les malades qui avaient un génotype 1, qui n'avaient pas répondu à la bithérapie interféron ribavirine, on leur a donné ce médicament et ce sont ces malades-là qui ont bien répondu au traitement. Parce qu'en fait, ça, c'est une molécule qui est complètement différente de l'interféron ou de la ribavirine. Hein. C'est vraiment une molécule qui cible une enzyme du virus, alors que l'interféron, c'est un antiviral sur tous les virus. Quoi. C'est un anti. Par exemple, quand on est sous interféron, on va faire moins de grippe parce qu'on est protégé contre les virus en général. Hein, la ribavirine, c'est pareil. Donc là, c'est vraiment un antiviral spécifique. Mais non, ça, bon, on est aussi sensible au telaprévir qu'on ait ou non résisté à l'interféron. Non, c'est enfin, alors ce qu'on appelle à l'heure actuelle, ce qui concerne la guérison, non, c'est de la guérison, c'est de la rémission prolongée. Hein, c'est de la guérison. Charge virale indétectable, les transaminases normales, et charge virale indétectable 6 mois après l'arrêt du traitement. Hein, puisque c'est comme ça qu'on juge de la guérison dans l'hépatite C, donc absence de virus 6 mois après l'arrêt du traitement. Et puis après, si on refait des charges virales 6 mois après, il n'y a que 1% des malades qui risquent de rechuter. Et après, c'est encore moins de 1%. Donc vraiment, lorsqu'on n'a plus de virus 6 mois après l'arrêt du traitement, on est guéri pour l'hépatite C. Je pense que j'ai un autre choix. Voilà, donc ça, en fait, c'est un petit peu ce que je vous ai dit. Donc on va essayer de combiner tous les traitements dans l'hépatite C. Donc les inhibiteurs spécifiques, donc c'est le telaprévir, avec l'interféron, avec la ribavirine. Et vous voyez, on va guérir 80% des malades. Et là, on a des études à l'heure actuelle qui nous permettent d'avancer ces données-là. Alors après, demain, enfin moi je dirais, là c'était quelqu'un de très optimiste qui a mis demain, je pense que c'est peut-être après-demain quand même, hein, où on aura ces inhibiteurs enzymatiques du virus de l'hépatite C qu'on pourra associer, donc des inhibiteurs de protéase, des inhibiteurs de polymérase et des inhibiteurs aussi de l'entrée du virus. Et tout ça, là, tous ces nouveaux médicaments profitent vraiment de façon très importante de toute la recherche qu'on a faite sur le VIH, parce que c'est grâce aux recherches sur le VIH et aux traitements qu'on a développés dans le VIH qu'on a pu montrer que les inhibiteurs de protéase étaient efficaces, les inhibiteurs de polymérase, les inhibiteurs d'entrée. Il y a encore d'autres médicaments là, qui arrivent dans le VIH, donc on profite bien de toute cette recherche-là. Alors ça, c'était... vous voyez, en fait, la cirrhose, c'est ça. Hein, et donc, voilà. Et donc... alors c'est vrai qu'un foie cirrhotique là comme ça, on se dit comment est-ce qu'il peut régresser, revenir normal. Celui-là c'est quand même une cirrhose assez évoluée et donc c'est plutôt, là c'est un foie qui a été transplanté hein, parce qu'il ne va pas revenir avant. Alors, voilà, ça j'ai dit ces choses-là. Monsieur Macheteau, voilà. Est-ce que vous voulez qu'on regarde le témoignage d'une MAC de l'hépatite B ou est-ce que vous en avez assez? Vous voulez l'hépatite B? Alors, on va revenir là.
j'ai découvert que je souffrais de l'hépatite B. Et lorsque j'ai été faire un bilan, faire un bilan pour un bilan, et c'est comme ça que j'ai su que j'avais l'hépatite B. Lorsque j'ai su que j'avais l'hépatite, je l'ai très mal prise. D'abord parce que j'ignorais ce qui était cette maladie. Et je ne savais pas comment me comporter vis-à-vis de la maladie. Et je me posais toutes les questions. Et je l'ai très, très mal prise. Par contre, l'annonce de la maladie à mes proches, ça s'est bien passé. Parce qu'ils ont accepté et les choses sont allées bien. Aujourd'hui, tout se passe bien parce que j'arrive maintenant à m'injecter, à suivre mon traitement convenablement. Maintenant, je vis bien avec. Il fait partie maintenant de moi. Donc, je l'ai accepté en fin de compte et je vis bien.
Cette dame, donc,
j'ai découvert que je souffrais de l'hépatite B et lorsque j'ai été faire un bilan, faire un bilan pour un bilan.
Les malades qui sont traités pour l'hépatite B, donc s'ils ont l'interféron, comme on a dit, donc, ils ont tendance à mieux le tolérer quand même. Et puis c'est l'interféron en monothérapie, hein, donc c'est mieux toléré que la bithérapie. C'est un traitement pendant un an, au moins un an, parce que le propre du virus B, c'est qu'en fait, il s'intègre à nos gènes. Et donc, dans les cellules, on va avoir ce qu'on appelle du virus B super enroulé. Et ce virus B super enroulé, il a envie de rester avec nous absolument. Et donc, c'est assez difficile de s'en débarrasser. Donc, c'est au moins un an de traitement par interféron, voire parfois on fait 18 mois pour vraiment se débarrasser de ce virus B super enroulé. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le seul traitement qui permet vraiment de guérir. Alors que tous les autres traitements dont vous a parlé Karine, eh bien, ça arrête la multiplication virale. Et donc, on est obligé de les prendre de façon prolongée pour l'instant. Alors, peut-être qu'un jour, on aura des nouveaux anti-VHB qui nous permettront d'avoir des traitements qui soient vraiment de un an de traitement ou un an et demi de traitement. Mais pour l'instant, on n'a pas ça. Donc, c'est pour ça que, bon, alors, la vaccination, c'est important, comme elle a bien dit. Lorsqu'on est au stade de cirrhose virale B et qu'on, malheureusement, que la cirrhose évolue et qu'on on est transplanté, eh bien, on est obligé d'avoir un traitement contre le virus de l'hépatite B après la greffe. Et donc, on a toujours un traitement. Et donc, ça, c'est bon, c'est difficile aussi. C'est des traitements chers aussi. Hein. Pour l'hépatite C, c'est pareil. Dans pratiquement tous les cas, on va récidiver son hépatite C sur le greffon. Mais dans l'hépatite C, on ne va pas faire un traitement préventif de l'infection virale C. On va faire un traitement curatif, c'est-à-dire qu'un an ou deux ans après la greffe, on va redonner un traitement pour se débarrasser du virus C. Et malheureusement, donc, lorsqu'on est greffé donc, et qu'on a une hépatite C, comme après la greffe, M. Bachon n'a pas parlé, mais c'est merveilleux la greffe, mais il faut quand même suivre un traitement immunosuppresseur hein, parce qu'on a un organe étranger. Et donc, tous les jours, il prend des médicaments hein, pour que son foie soit bien toléré. Et donc, ces traitements immunosuppresseurs font que, en fait, les infections virales vont évoluer de façon plus grave, plus rapidement. Donc, en fait, les malades transplantés pour leur hépatite C vont récidiver dans la plupart des cas leur hépatite C sur leur foie transplanté et vont faire une cirrhose plus rapidement. Hein, donc, ça, c'est encore des problèmes. Hein. Et donc, c'est pour ça qu'il faut... on continue à trouver des traitements pour se débarrasser du virus. Ça serait bien de se débarrasser du virus avant la greffe et puis n'avoir à greffer que la cirrhose. Ouais.
Est-ce que le fait d'avoir une de ces deux hépatites, une hépatite ?
Pas du tout. C'est des virus complètement différents. Et donc, lorsqu'on a fait une hépatite B,
on va être immune, on va être protégé lorsqu'on est infecté par un autre virus B. Par contre, et ça c'est une question très importante effectivement, lorsqu'on est guéri d'une hépatite C, eh bien on peut être réinfecté par un autre virus C. Donc ça veut dire qu'une fois qu'on a été guéri, attention aux conduites à risque après. On peut être réinfecté. Et ça on le voit, moi je sais que j'ai une consultation à la maison d'arrêt où donc bon, les gens incarcérés font quand même pas mal d'hépatite C. Et donc souvent il y en a, ils sont contents parce que bon, on les a traités à la maison d'arrêt, ils sont débarrassés de leur virus. Et puis après je vais les revoir 2 ans plus tard et puis ils me disent... Ah bah oui, mais j'ai pas fait attention. Alors on fait une prise de sang, donc on recherche la quantité de virus dans le sang, hein, le virus vraiment. Et puis ils sont réinfectés, certains d'entre eux. Et toujours au C. Hein. Quand on a une hépatite chronique, C par exemple, ou une cirrhose, on va vacciner les gens contre la B. Hein, parce que bon, quand on a une maladie chronique du foie à un virus, il faut essayer de se protéger contre les autres virus. Alors, pour la B, on a un vaccin, donc on vaccine les malades. Par exemple, les malades qui sont infectés par le virus VIH, on les vaccine contre l'hépatite B, contre le virus de l'hépatite A, pour qu'ils ne fassent pas d'autres maladies du foie. Alors, pour les espérances de vaccins, elles sont... C'est vraiment pas pour tout de suite parce qu'à l'heure actuelle, on sait cultiver qu'un seul type de virus C, que le génotype 1. On a des systèmes de co-culture un petit peu particuliers aussi avec des génotypes 1. Donc en fait, on sait faire un peu pour le génotype 1. Mais on est très 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 loin du vaccin. Donc pour le C, c'est pas tout de suite. Oui. Alors, le virus VIH, c'est un virus ARN, mais il n'y a pas de similitude, non. Par contre, ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains médicaments qu'on utilise dans le VIH qui sont efficaces sur le virus de l'hépatite B. La lamivudine, par exemple, c'était un traitement qui avait été utilisé dans le VIH et on s'est rendu compte qu'il était efficace sur le virus B. Le tenofovir, c'est un médicament qu'on utilise chez les malades VIH et qui est très, très, très efficace sur le virus B. Alors oui, il y a une hépatite D, l'hépatite Delta. Le virus Delta, c'est un tout petit virus à ARN. Et c'est un virus qui a besoin du virus B pour nous infecter. Donc ça veut dire que soit on est infecté en même temps par le virus B et par le virus Delta, ou alors on a déjà le virus B et on va être infecté par le virus Delta. Alors ce virus Delta, en fait, il est surtout présent sur le pourtour méditerranéen et... On l'a surtout vu à une époque chez les malades toxicomanes, enfin usagers de drogue. Et on n'en a pas beaucoup en France. Heureusement parce que c'est un virus qui est beaucoup plus difficile à traiter que le virus B sauvage et que le virus B mutant. Donc il faut vraiment des traitements beaucoup plus prolongés pour le virus Delta. Par exemple pour l'interféron, on utilise vraiment des traitements pendant 1 an et demi pour s'en débarrasser. Oui. Ouais, alors je ne sais pas si moi j'ai des pourcentages. Moi je dirais peut-être que 3/4 des malades arrivent à garder leur emploi. Alors c'est vrai, ce qu'on leur dit, c'est que la fatigue s'accumule. Donc à un moment donné, moi je sais que ce que je dis, c'est que bon. Bah, prenez plutôt 3-4 jours de vacances, reposez-vous par exemple tous les mois, et puis comme ça, vous pourrez continuer à travailler. Je pense que c'est bon, c'est des choses qu'on peut proposer. Il y a des gens qui sont moyennement fatigués. Alain, il est très optimiste, il dit, enfin bon, quand même, c'est quand même fatigant. Hein. C'est quand même fatigant. Donc, cette fatigue s'accumule. Et en fait, les malades, ils racontent bien que donc, ils sont traités pendant 6 mois, pendant 1 an, et 2 mois après l'arrêt du traitement, tout d'un coup, ils se disent « Mais qu'est-ce que je pouvais être fatiguée durant ce traitement ?» Parce qu'en fait, ils revivent, ils se disent « Mais c'est incroyable ce que je pouvais être fatiguée. Hein ?» Ce qu'ils pouvaient être fatigués pendant le traitement, ils se rendent compte aussi qu'ils étaient fatigués avant, quand ils avaient l'hépatite C. Et quand ils n'ont plus, c'est vraiment un soulagement. Ça, c'est... Et ils se rendent compte qu'ils sont bien, quoi.
un truc qu'ils n'avaient pas vécu depuis très très longtemps. Bon, on va s'arrêter là alors. Merci beaucoup d'être venu. Ah oui ? Oui ? Des associations de malades, vous voulez dire ? Oui, SOS Hépatite. Alors, c'est une SOS Hépatite C, une association de malades, donc, qui est sur toute la France. Alors, malheureusement, dans le Poitou-Charentes, on a du mal à avoir des malades qui ont envie de s'impliquer dans cette vie associative. C'est pas forcément facile. Et donc, en Poitou-Charentes, on est toujours en mal SOS Hépatite. Mais grâce... La présidente des SOS Hépatite maintenant, c'est Madame Leclerc qui est de Tours, non, Orléans, donc elle n'est pas très très loin. Et donc, bon, c'est quelqu'un de très très actif. Avant, c'était Monsieur Bonjour qui était le président des SOS Hépatite. Et donc, peut-être que, bon, elle va peut-être faire avancer les choses de façon un petit peu différente. De toute façon, SOS Hépatite, donc il y a un numéro téléphone, un numéro vert. Il y a un site SOS Hépatite, donc vous tapez Google SOS Hépatite et vous arrivez sur leur site. À l'heure actuelle, donc pour la journée nationale, donc il y a un site Journée nationale Hépatite qui est sur le site de la Fédération nationale des pôles et réseaux Hépatite. Mais pareil, vous allez sur Google, vous tapez Hépatite, vous avez hépatite.com, vous avez ça. Et il y a des liens. Avec SOS Hépatite. Donc on arrive toujours sur SOS Hépatite. De la même façon, depuis hier, sur Doctissimo, il y a des chats, etc. Et donc les chats sur Doctissimo, à partir d'aujourd'hui et puis de façon prolongée, en fait, ce sont des malades qui font partie de SOS Hépatite qui sont sur le chat. Donc en fait, donc, grâce à Internet, là, vous pouvez... avoir des éléments de réponse sur SOS Hépatite. Je pense que c'est très important de savoir et de rencontrer d'autres malades qui ont l'hépatite et qui sont ou non traités. Parce que, je veux dire que nous soignants, nous les médecins, les infirmières aussi, il y a des infirmières dans la salle qui sont vraiment extrêmement importantes dans toute l'éducation thérapeutique, qui vont vraiment aider les malades avant le traitement, pendant le traitement. Donc, mais ça, c'est du médical. Hein. Donc il y a les médecins, les infirmières, il y a des psychologues aussi dans le service. Mais je pense que c'est important de voir d'autres malades. Et les associations vous aident énormément. Les associations ont fait beaucoup. Donc par exemple, pour l'EPO, je pense que SOS Hépatite a vraiment travaillé de façon très très importante pour que l'EPO soit un traitement reconnu en association à la bithérapie. SOS Hépatite aussi fait un travail très important, par exemple pour les assurances, parce que vous savez que quand on a une hépatite B ou une hépatite C, et ben, si on veut faire un prêt, on a soit avant on ne pouvait pas avoir de prêt, ou alors maintenant les assurances, les surassurances. SOS Hépatite vous aide là-dedans. SOS Hépatite a fait des petits livrets pour expliquer la maladie, pour expliquer les traitements. Ils sont là, il y a un appel téléphonique tout le temps. Je crois qu'ils ont vraiment, c'est très important, ça, une association de malades, et en particulier dans les hépatites, vraiment, ils font un travail considérable et qui aide vraiment énormément les malades, d'une part, et puis nous aussi, en tant que médecins. Et je pense que ça, c'est très important qu'ils soient là. Certainement. Ouais, bah c'est une autre façon. Ouais. Mm-hmm. Mais à Châteauroux, peut-être qu'il n'y a pas SOS Hépatite non plus. Enfin, bon, c'est...
Certains ont voulu, effectivement, au-delà du groupe de parole, rejoindre l'association. D'autres, non, parce que ça suffit d'être en contact.
Je crois que ça, c'est très important. Je pense que c'est...
Ils se retrouvent et ils
Ouais, je ne sais pas, monsieur Macheteau, vous, c'est Transépate, votre associé. Ouais. Ouais.
En Bretagne, à Rennes.
Ouais.
Je crois que c'est tout à fait.